Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
On prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions.
Bienvenue dans 21 millions, l'émission Cryptopédago qui vous explique simplement le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Arthur Bretman, le cofondateur du projet Tezos, dont on commence à entendre beaucoup parler en ce moment. Tezos, c'est un protocole blockchain comme il y en a des centaines et dont la fonction principale est de bâtir des applications décentralisées dessus. Tezos est en concurrence directe avec Ethereum et beaucoup d'autres sur ce créneau. Avec Arthur Bretman, nous verrons ensemble quelles sont ses particularités, ses qualités, ses faiblesses et aussi pourquoi le gouvernement français ne tarit pas d'éloges à son sujet. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai entendu parler de Tezos pour la première fois, c'est que ses concepteurs la définissent comme la toute dernière des crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de crypto-monnaie après Tezos, mais que celle-ci parviendrait à s'imposer à la manière de Google dans le secteur de la recherche en ligne, qui n'a pourtant pas été le premier moteur de recherche. Alors, Tezos, le futur Google de la blockchain ? Bonjour Arthur Bretman, bienvenue dans 21 millions.
Bonjour, merci.
Alors, vous êtes le cofondateur avec votre femme Kathleen du projet Tezos, l'un des protocoles blockchain les plus en vue du moment. Mais avant de rentrer en détail dans le protocole, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre parcours. Pour commencer, vous êtes français, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Je suis né autour de Paris et j'ai grandi à Montrouge.
Et vous vivez actuellement aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller aux États-Unis ? Quelles sont vos études aussi avant ?
Alors, moi, j'ai déménagé mes études avant. Je suis passé par le système des classes préparatoires et des grandes écoles en France. J'ai de la promo 2002 de Polytechnique. L'école suggère de faire une école d'application de quatrième année. Et donc, j'ai choisi d'aller faire mon application en étudiant des mathématiques appliquées à la New York University. Donc, vers 2005, j'ai déménagé à New York. Après, j'ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle là-bas avec un petit peu de temps aussi en Californie.
Et vous avez gagné un grand concours de maths, hein, non ? Ou d'informatique, c'est ça ?
Voilà, mais ça, il y a longtemps, c'était en 2000. Alors, ça, on commençait vraiment en France, ça a commencé à prendre forme, on commençait à faire l'entraînement pour les Olympiades d'informatique internationales. Et donc, c'était vraiment une des premières cohortes. Et en 2000, donc, j'ai eu une médaille de bronze, parce qu'ils en donnent quand même pas mal. J'ai eu une médaille de bronze aux Olympiades internationales d'informatique qui était à Pékin en 2000. Et d'ailleurs, Vitalik Buterin a aussi une médaille de bronze des IOI, je crois.
Vous partagez beaucoup de choses alors.
Un intérêt pour les ledgers décentralisés aussi.
Et on aura le temps d'en parler après. Mais avant, j'aimerais que vous nous racontiez un peu, parce que je crois que vous êtes passé par Goldman Sachs aussi.
Alors, à l'issue d'un master de mathématiques appliquées à New York, j'ai travaillé dans quelques endroits. J'étais dans un hedge fund, puis j'ai passé effectivement 3 ans à Goldman Sachs, où je faisais un travail de quant, de statisticien, pour être teneur de marché sur un petit peu de gaz naturel et un petit peu de tracker.
Et j'aimerais maintenant que vous nous racontiez un peu votre rencontre avec les cryptos. J'imagine que, comme beaucoup de monde, c'est Bitcoin. J'aimerais que vous nous racontiez cette découverte.
Alors, c'est une découverte qui s'est faite en plusieurs étapes. En fait, j'ai entendu parler de Bitcoin en 2008. Donc, Bitcoin a démarré en 2009. J'ai entendu parler en 2008 quand le papier a été publié sur la mailing list de cryptographie, parce que j'ai un très bon ami à New York et j'organisais des cercles libertariens de discussion. Et un de mes amis, en fait, tient cette mailing list, il l'a mentionné. Et donc, c'est la première fois que j'en entends parler, mais c'est entré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Et donc, j'ai complètement ignoré, j'ai rien fait. Puis j'ai un ami français qui m'en a parlé un petit peu après, Renaud Lischwitz, il m'a dit: ah, regarde ça, Bitcoin. Alors j'ai mis un draft sur un brouillon sur Gmail en me disant: ah, il faut bien que je pense à regarder Bitcoin. Effectivement, ça fait 2 fois qu'on m'en parle, c'est intéressant. Et puis bon, quand même, en 2011-2012, j'ai commencé à m'y intéresser de plus près. Et donc là, évidemment, ça fait un petit peu boule de neige. Et puis, c'est un sujet qui attire beaucoup de gens, notamment en finance, parmi les quants. Parce que quand on est quant en finance, on est intéressé par les maths, on est intéressé par...
Quand vous dites quant, ça veut dire quoi?
Quant, c'est un raccourci pour analyste quantitatif. C'est quelqu'un, en gros, qui, sur un bureau de change, utilise des techniques mathématiques ou statistiques pour déterminer des prix, pour déterminer des anomalies de prix, pour analyser les marchés.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu vraiment dans Bitcoin au départ ?
Depuis longtemps, en fait, j'étais intéressé par les aspects de ce qu'on appelle... de crypto-anarchie, et donc l'idée d'avoir un système monétaire décentralisé était très intéressant, mais j'avais pas vu concrètement de réalisation, et à l'époque j'avais pas regardé le problème en détail, donc je ne connaissais pas les difficultés particulières du problème, donc c'était pas évident pour moi quand j'ai vu Bitcoin de savoir quel problème Bitcoin résolvait. Au début ça m'a pas plu, c'est-à-dire au début on me l'a présenté en me disant Bitcoin c'est backé par de l'électricité. Je me dis mais foncièrement je pense que la monnaie idéale n'a pas de elle est pure, en le sens qu'elle a pas, il y a pas un backing, on l'échange pas contre quelque chose, parce que sinon il y a un conflit. Si par exemple c'était effectivement, parfois on dit on voudrait avoir de la monnaie qui soit backée par l'énergie, si c'était le cas, ça veut dire que quand la demande de d'épargne augmente, tout d'un coup il y aurait l'énergie qui ne serait pas disponible pour l'industrie, mais c'est pas le cas de Bitcoin. Mais le fait que les gens faisaient cette erreur, que j'ai entendu cette erreur et que je l'ai admis comme une réalité, avec que j'étais pas très intéressé. Et puis quand j'ai vu en fait que non, ça fonctionnait pas comme ça, que c'était fonctionné sur la cryptographie, que c'était vraiment décentralisé, là je me suis intéressé de plus près.
Et comment en êtes-vous arrivé à imaginer Tezos? Parce que dans votre livre blanc en 2014, vous décrivez Tezos comme la dernière des crypto-monnaies. Alors si on raisonne factuellement, on peut dire que vous êtes un peu trompé, hein. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire vraiment avec cette formule?
Alors le papier de LM Goodman de 2014 est sur Tezos. Je pense que l'idée d'être ce concept de la première ou la dernière, vous l'avez dans le livre de Peter Thiel, Zero to One, qui dit que pour avoir du succès, une compagnie peut être soit la première compagnie, on est la première et il y a un effet de réseau tellement fort qu'on n'est jamais vraiment remplacé par quelqu'un d'autre, ou on est la dernière. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Google a réussi en étant le dernier moteur de recherche. Évidemment, ça ne veut pas dire que Google est le dernier moteur de recherche. Il y a eu Bing qui a été lancé après. Il y en a eu plein d'autres, des moteurs de recherche lancés après Google. Mais il n'y en a aucun qui a vraiment réussi à remplacer. Parce que, en fait, finalement, Google est devenu tellement, a proposé un service qui était tellement bon, qui avait tellement d'avantages, que ça ne valait plus la peine pour les gens d'aller autre part. Et donc, évidemment, il y a eu des crypto-monnaies qui ont été lancées après Tezos. Mais le but, c'est de dire que, finalement, tout ce qu'elles promettent, ces autres crypto-monnaies, ce sont des innovations techniques à la marge qui sont intéressantes, mais qui peuvent être intégrées à Tezos. Et donc, je pense que Tezos va progressivement intégrer ces différentes innovations, ce qui fait que finalement, maintenant qu'il y a une crypto-monnaie qui est capable de se changer, qui est capable d'adopter toutes les innovations des autres, ce n'est plus forcément aussi intéressant ça de lancer une ancienne crypto-monnaie. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va devenir plus intéressant pour quelqu'un qui a une idée, de se dire, j'ai une idée, je préfère en fait améliorer Tezos, parce qu'il y a un mécanisme en fait d'incitation pécuniaire pour que les gens proposent des améliorations à Tezos. Donc aujourd'hui, quelqu'un se dit, j'ai une idée, quelles sont ses options? Il peut aller voir Bitcoin ou Ethereum, par exemple, et proposer une meilleure version d'Ethereum, une meilleure version de Bitcoin, et les gens lui diront, merci beaucoup, c'est super, ou alors eux-mêmes l'ignoreront, et il ne se passera rien d'autre. Sur Tezos, quelqu'un peut venir dire, écoutez, voilà, j'ai une amélioration de Tezos à vous proposer, mais si vous l'acceptez en tant que communauté, cette amélioration, j'aimerais bien avoir une partie des fonds. Donc par exemple, on peut créer de l'inflation sur la chaîne, par exemple 0,1% d'inflation. 0,1% d'inflation avec les prix de marché actuels sur Tezos, c'est à peu près quand même 600 000 euros ou quelque chose comme ça. Donc quelqu'un peut dire, regardez, vous faites 0,1% d'inflation, mais moi je vous donne une version qui améliore vraiment le protocole. Et donc, à bout d'un moment, je pense que ça va devenir plus intéressant pour les gens qui ont ces idées de proposer ces améliorations à Tezos plutôt que d'essayer de lancer leur propre monnaie.
Et qu'est-ce qui vous semble si déficient dans Bitcoin aujourd'hui ? Est-ce que c'est le fait que les améliorations, elles arrivent au bout de vraiment beaucoup de négociations entre la communauté ?
Je pense que... Enfin, je n'ai pas dit que Bitcoin est si déficient que ça. Hein. Je pense que Bitcoin, quand même, se défend très, très bien. Là où je suis un petit peu déçu, c'est qu'en fait, originellement, quand j'ai vu Bitcoin en... je crois que c'était vers 2014... il y a eu les 2014-2013, il y a eu les papiers sur Zero Cash qui permettaient en fait d'avoir de respecter la vie privée des utilisateurs, parce que Bitcoin ne respecte pas vraiment la vie privée des utilisateurs puisque toutes les transactions sont publiques. Et donc Zero Cash est arrivé et c'était foncièrement quelque chose qui était dans les toasts de Bitcoin, et j'ai vu qu'il y avait finalement assez peu d'intérêt dans la communauté Bitcoin a changé, soit parce que finalement les gens se rendaient compte que ça allait être trop dur de changer Bitcoin, soit parce qu'ils ne voulaient pas le changer. Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'il y ait autant d'innovation qui soit aussi importante, qu'il y ait autant de valeur et que parce que Bitcoin s'est lancé à une certaine époque où ça n'était pas disponible, il n'en bénéficiera pas. Et donc je voulais absolument, pour moi ça me paraissait absolument crucial qu'une crypto-monnaie soit capable de pouvoir accepter des innovations quand elles arrivent.
Il y a aussi le problème énergétique chez Bitcoin qui vous... En tout cas, vous n'avez pas du tout choisi le même modèle de consensus.
Effectivement, donc sur Bitcoin, on a ce qu'on appelle de la preuve de travail. L'idée, c'est que les gens utilisent des CPU, et puis après des cartes 3D, et puis après des machines spécialisées, des ASIC, pour participer. Toute personne qui possède ça peut dépenser l'électricité, et en dépensant cette électricité, ils arrivent à faire partie d'un ensemble de consensus et à faire avancer la chaîne Bitcoin. Donc ça a deux désavantages, cet aspect-là, c'est que ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'il y a 2,5 Bitcoin qui sont créés par bloc. Donc ça veut dire que Bitcoin dépense à peu près aujourd'hui, on va dire, 50 000 euros toutes les 10 minutes, en grande partie en électricité, juste pour payer pour sa sécurité. Donc Bitcoin paye sa sécurité très très cher. Alors on pourrait dire, ah mais regardez, bah, ça veut dire qu'on a de la très bonne sécurité. Mais non, malheureusement, juste parce qu'on paye très cher, ça ne veut pas dire qu'on a une très bonne sécurité. Dans la preuve à l'enjeu, ce qu'utilise Tezos, on n'utilise pas en fait cette idée de dire on va faire une dépense énergétique. À la place, ce qu'on presse, c'est qu'on prend la monnaie qui est détenue par des gens, et ces gens en fait mettent cette monnaie et ils la mettent en danger, en ce sens. Ils disent, regardez, je vais participer au consensus, mais si j'ai fait quelque chose de malhonnête, Vous pouvez prendre cette somme d'argent, vous pouvez la détruire. Et ça c'est un gros avantage. Dans la preuve de travail, ça coûte aussi cher de créer un bloc malhonnête que de créer un bloc honnête. Et donc la raison pour laquelle les gens font des blocs honnêtes, c'est qu'on les paye très cher pour faire des blocs honnêtes. Ici, l'idée, c'est que ça ne coûte pas cher de créer un bloc honnête, mais ça coûte très cher de créer un bloc malhonnête. Parce que si on crée un bloc malhonnête, c'est détecté et on perd beaucoup d'argent. Donc on a une asymétrie dans la preuve à l'enjeu qui n'existe pas dans la preuve de travail. Et cette asymétrie, ça permet de payer beaucoup moins pour la sécurité du système. Donc on a une sécurité équivalente ou meilleure à un coût en termes d'inflation beaucoup plus faible. Donc il y a beaucoup de gens autour du Bitcoin qui sont vraiment dans l'idée de dire que ce qui est important, c'est que Bitcoin ce soit une monnaie très dure, un peu comme la monnaie or, etc., pas d'inflation. Et en fait, finalement, si on a une meilleure sécurité pour moins cher, ça veut dire moins d'inflation. Donc on a une monnaie qui est moins inflationnaire avec la preuve à l'enjeu qu'avec la preuve de travail.
Et j'aimerais qu'on parle un peu plus du protocole. Alors pour résumer, c'est une blockchain qui permet de s'échanger de la valeur de pair à pair, mais qui permet aussi de créer des applications décentralisées. Donc en gros, vous faites un peu la même chose qu'Ethereum. Du coup, c'est quoi la différence ?
Alors, foncièrement, je pense que toutes ces plateformes se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on veut dire. Et d'ailleurs, une question intéressante, c'est que parfois les gens font la distinction entre les crypto-monnaies et les plateformes de smart contract comme si c'était des très différents. Mais ce qu'on appelle une crypto-monnaie aujourd'hui, c'est une plateforme de smart contract qui ne sait pas faire des smart contracts. Parce que si vous prenez Ethereum ou Tezos et que vous introduisez un bug qui fait que personne ne peut créer de smart contract, vous avez une crypto-monnaie. Et parfois les gens disent, ah oui, non, les plateformes de smart contract, ça marche plus. Ça, j'y crois pas trop, mais les crypto-monnaies, c'est très bien. Alors, ou vice-versa. Mais finalement, l'un est inclus dans l'autre. De la même, parfois, les gens font la différence entre ce qu'ils appellent les privacy coins, donc ceux qui respectent la vie privée, et les coins. Mais Bitcoin est un privacy coin où la privacy ne marche pas. Donc finalement, ce sont juste des fonctionnalités, et le fait d'avoir plus de fonctionnalités ne retire pas à la plateforme. On entendra parfois l'argument de dire « Ouais, mais s'il y a plus de fonctionnalités, ça veut dire qu'il y a plus de risques de bugs, etc. » C'est vrai, mais il y a une limite à ça. Je veux dire, c'est vrai que c'est difficile d'empêcher les bugs, mais ça n'est pas non plus impossible. On peut y arriver, on peut passer suffisamment de temps à regarder ça. Ce sont des systèmes qui sont finis. Il y a un nombre fini de lignes de code dans ces systèmes-là, donc c'est pas une tâche impossible d'avoir un système de smart contract qui fonctionne correctement.
Mais vous n'avez pas répondu exactement à ma question. Alors, quelle est la différence vraiment entre Ethereum et Tezos?
Alors, la différence entre Ethereum et Tezos, il y a des différences fondamentales et il y a des différences qui sont un peu plus culturelles. Donc, dans les différences fondamentales, donc déjà, Tezos, c'est de la preuve à l'enjeu. Ethereum, c'est la preuve de travail.
Mais bientôt, Ethereum devrait changer. Bon, peut-être
alors,
la 5.1.
Bientôt, Ethereum va être en preuve de travail, on l'entend depuis 2014. Donc, je pense qu'ils vont y arriver. Et effectivement, ils prennent leur temps. C'est aussi du fait que Ethereum est un réseau beaucoup plus gros, donc il faut aussi qu'ils soient beaucoup plus conservateurs sur leur changement. C'est normal, hein. Je dis pas ça pour jeter la pierre. Mais c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps qu'ils en parlent, la preuve à l'enjeu. Je leur suggérerais de prendre une approche plus incrémentale. Plutôt que d'essayer d'arriver tout de suite à on va partir de là où on est et tout d'un coup pouf, on aura du sharding, on aura du machin, etc. Petit à petit, donc on est en preuve à l'enjeu. Il y a aussi le fait que quand on écrit des contrats intelligents sur Tezos, la machine virtuelle sur laquelle on les exécute, c'est une machine virtuelle qui est lisible par des humains, donc on peut lire du code de cette machine virtuelle et le comprendre. Ça n'est pas le cas sur Ethereum. C'est du code aussi qui est typé, c'est du code qui est purement fonctionnel. Donc ça, ce sont des aspects de programmation qui permettent à de faciliter la détection de bugs, à la fois par les humains, donc c'est plus dur pour un humain de se tirer une balle dans le pied et d'écrire des bugs dans ces systèmes-là, c'est possible, mais c'est moins courant. Ça, c'est une observation empirique qui a été faite depuis longtemps sur les langages typés, sur les langages fonctionnels. Donc on utilise un peu cette connaissance pour dire, bah, les bugs sur les smart contracts, c'est quand même très dangereux, donc autant essayer de fournir des défauts qui permettent aux utilisateurs de les éviter. Il y a cet aspect-là. Il y a des subtilités, par exemple, sur Ethereum, un contrat qui appelle un autre contrat, ça ressemble à ce qu'on appelle un appel de fonction. Dans Tezos, c'est un message qui est envoyé à la fin d'un contrat. Donc ça, ce sont des aspects d'informatique un peu subtils, mais qui viennent de la théorie de langage de programmation et de trentaines d'années d'expérience dans le sujet. On a beaucoup d'expertise, justement, en France sur les techniques de vérification et les techniques de programmation qui permettent d'éviter les bugs. Pourquoi ? Parce que la France a fait des centrales nucléaires, la France a fait de l'aérospatiale, la France a fait beaucoup d'activités où le coût des bugs est très très cher. Quand on fait du web, une page qui crache pendant une heure, bon, c'est un manque à gagner, mais ça se règle facilement. Quand on fait des smart contracts ou des centrales nucléaires, il faut faire très attention à ce genre de choses-là. Donc ça, c'est encore une différence avec Ethereum. Et finalement, et ça, c'est peut-être l'aspect le plus important, c'est l'aspect de gouvernance. Donc sur Ethereum, quand on passe de Ethereum 1 à Ethereum 2, par exemple, ou à d'autres versions, il fonctionne par ce qu'on appelle des hard forks. Je ne sais pas comment des fourches dures. Moi, j'ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle à parler anglais. Et donc, quand je parle français, je redouble d'attention pour essayer de ne pas introduire l'anglicisme. Donc, une fourche dure. Donc, l'idée, c'est de dire, écoutez tout le monde, on a une version du code. Donc, maintenant, vous allez arrêter votre ancienne version et mettre à jour la nouvelle version au bon moment. Et donc, ça demande un gros effort de coordination. Et donc, deux choses l'une. Soit, il n'y a pas d'entité qui est capable d'atteindre cette coordination au niveau des utilisateurs, auquel cas on a de la stagnation, soit en général ça repose sur des entités un petit peu centralisées qui ont un mégaphone, qui n'ont pas un pouvoir déjuré sur les utilisateurs et sur leur communauté, mais qui ont quand même un pouvoir de facto parce que ce sont des centres de coordination. Donc je ne pense pas qu'ils le choisissent ce pouvoir, mais du fait de la méthode de mise à jour, ils se trouvent dans cette position. Et Tezos essaye d'éviter ça, parce que c'est potentiellement un risque pour le système, d'avoir un acteur qui soit dans une position centrale. Et donc, quand on veut faire des mises à jour, ces mises à jour, il y a un processus formel pour faire ça. La mise à jour, elle est définie comme un morceau de code. Il y a un message qui est envoyé vers la chaîne pour dire, écoutez, voilà une nouvelle version qui est proposée. Et les utilisateurs de la chaîne votent. Alors c'est une pièce, un vote. Vote pour déterminer s'ils veulent oui ou non adopter ce changement. Et donc en ce moment d'ailleurs même, il y a une proposition qui s'appelle Athènes, qui est depuis quelques mois en vote. Donc elle a déjà passé deux votes. Il y a un troisième vote de confirmation. C'est un système qui est quand même assez lent et qui prend bien son temps de bien tout vérifier. Et si effectivement elle passe ce troisième mode de vérification d'ici à peu près un mois, la nouvelle version sera prise, le réseau prendra acte de la nouvelle version et donc on aura une mise à jour. Donc ça, c'est trois différences assez importantes avec Ethereum.
Et on a cité Ethereum, mais il y a plein d'autres protocoles qui servent à faire des smart contracts. Il y a iOS, il y a Cardano, il y a Neo. Est-ce que vous pensez que tous peuvent s'imposer à la fin ?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse faire des contrats sur Cardano. Cardano, ils ont des plans pour faire des smart contracts, ils ont des plans pour faire du proof of stake, etc. C'est intéressant. Mais pour l'instant, je pense que ça tourne que sur quelques nœuds. Il n'y a pas encore ces fonctionnalités-là. Donc, Neo, oui, a quelques smart contracts. Effectivement, il y a d'autres plateformes. Je pense que ce qui va permettre à Tezos d'attirer pas mal de développeurs sur la plateforme, c'est l'angle sur la sécurité des smart contracts. Moi, je connais des gens qui, par exemple, n'avaient pas suffisamment confiance dans les smart contracts d'Ethereum pour utiliser des contrats multisig, mais qui ont suffisamment de confiance dans les contrats Tezos pour utiliser ces contrats, parce qu'ils sont capables de lire le contrat. Le contrat fait quelques lignes et on est capable de comprendre exactement ce qu'il fait, tandis que il y a pas suffisamment de confiance dans la chaîne de compilation Ethereum pour faire ça. Pour certains acteurs qui ont besoin de garder des larges sommes de fonds, des custodians, je sais pas comment on dit ça.
De garde.
En français, de la garde. Donc, c'est un aspect qui est important. Il y a aussi le fait que comme Tezos n'évolue pas avec des forks, mais avec de la gouvernance, en ce sens, même s'il y a un fork, comme il n'y a pas besoin de fork, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fork, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin. Donc s'il y a un fork, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parti, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui est parti, d'accord. Mais au moins, on sait quelle est la branche canonique, en un sens. Et comme il y a une branche canonique, pour des activités, par exemple, de tokenisation d'actifs externes, par exemple, si on veut représenter de l'immobilier sur une blockchain avec des jetons ou du calas ou des choses comme ça, bien, une question que les gens ont à se poser quand ils utilisent une plateforme qui n'est pas Tezos, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si un jour il y a une fourche. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux représentations du même bien, donc il faudra qu'on choisisse une branche. Comment on choisit la branche? Quelle est la procédure pour choisir la branche? Et donc finalement, chacun doit réinventer toute sa procédure de gouvernance pour déterminer quelle est la branche sur laquelle ils vont honorer la relation entre le titre et l'actif externe. Et ça, c'est un problème qui ne s'impose pas forcément sur Tezos. Donc je pense que ça peut attirer des activités qui, à mon avis, ont de la valeur sur la blockchain.
Et je vais un peu reformuler ma question. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour 6, 7, 8 grands protocoles qui font un peu la même chose que vous, ou va y avoir une consolidation du secteur?
Alors 6, 7, 8, on est un peu dans la limite. Je pense qu'on est plutôt entre 3 et 5 en termes de... Mais je pense qu'il y aura énormément de consolidation. Parce que foncièrement, il y a des effets de réseau derrière ça. Parce que si ce qu'on cherche dans ces systèmes-là, c'est quoi? C'est des effets de réseau autour de la monnaie, c'est d'avoir de la monnaie électronique. Donc pour ça, il faut être gros, parce que l'intérêt de la monnaie, c'est que c'est le moyen d'échange le plus liquide. Donc évidemment, que ce soit Tezos, que ce soit Bitcoin, ça n'est pas le moyen d'échange le plus liquide. Mais d'un autre côté, ça peut être le moyen d'échange le plus liquide dans sa catégorie. D'accord, mais il n'y a pas 50 000 non plus, il n'y a pas 50 000 catégories non plus. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de consolidation autour de l'histoire d'avoir une prime monétaire. Deuxièmement, autour d'une plateforme de smart contract, ce qu'on cherche aussi, c'est de la décentralisation. Pourquoi? Il y a Ethereum a une ligne que j'aime bien, qui est Build Unstoppable Applications. C'est des applications que personne ne peut arrêter. Alors, ça peut, donc il y a plusieurs acteurs qui peuvent voir arrêter une application. En particulier, même, ça peut être la personne qui a créé l'application elle-même. C'est bien de pouvoir créer une application et de dire, écoutez, vous pouvez avoir confiance pour construire cette application, parce que même moi, je ne peux pas l'arrêter.
Un peu comme Augur.
Oui, un petit peu comme Augur, par exemple. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de sécurité, il faut avoir beaucoup de décentralisation. Et il va y avoir naturellement, je pense, y avoir une convergence vers les réseaux qui sont les plus gros, qui sont les plus décentralisés. Et au final, si on se dirige dans une branche de dire non, regardez, ce qu'on fait, c'est purement utilitaire, c'est purement l'infrastructure, je crois que iOS est un petit peu dans cette direction là en disant regardez, on va être très rapide, vous pouvez trouver toute l'application. C'est vrai, mais dans ces cas là on va se retrouver avec de la concurrence, avec des services centralisés comme AWS par exemple. Alors je connais pas bien les offres françaises dans le domaine du cloud, parce que
c'est les mêmes qu'aux États-Unis, hein.
Ah bon, d'accord. il y a pas de... Non, OVH peut-être.
Oui, OVH, oui.
Ah, alors c'est OVH. Vrai, c'est vrai. Donc ces gens-là vont pouvoir faire concurrence. Et donc si une application elle tourne aussi bien chez AWS que sur iOS, ça coûte beaucoup moins cher de la faire tourner chez AWS ou chez OVH. Donc je pense que les blockchains qui auront du succès sont celles qui vont se concentrer sur leur cœur de métier, en un sens, ou sur sur ce qui les rend particulières. Et ce qui les rend particulières, c'est la résistance à la censure, c'est la décentralisation.
Et aujourd'hui, dans quel cas concret Tezos est-il utilisé?
Tezos est une plateforme qui est toute nouvelle. Donc pour l'instant, les utilisateurs apprennent à utiliser la plateforme. Et je pense que l'activité la plus populaire en ce moment sur, sur Tezos, c'est ce qu'on appelle la boulange. Donc c'est l'équivalent du minage, c'est la création de blocs. Et donc en soi, c'est une activité qui n'existe que pour supporter d'autres activités. Mais pour l'instant, les gens sont en train de découvrir cette activité. Et, et ce qui est bien, parce qu'on a une plateforme assez décentralisée, il y a 450 boulangers sur Tezos. Donc il y a 450 entités différentes sur 5 continents qui créent des blocs. Donc pour l'instant, c'est un peu la construction de cette infrastructure. Il y a quelques projets qui sont en train de construire dessus. Il y en a eu un qui a été annoncé de Elevated Returns.
Voilà, je voulais vous en parler de ce projet-là. Alors, il est vraiment intéressant parce que, juste pour situer, c'est un groupe financier qui compte tokeniser pour 1 milliard de dollars de biens immobiliers via Tezos, hein, c'est ça ?
Ah, c'est bien ce que j'ai entendu, oui, aussi.
Et ma première question, c'est qu'est-ce que la tokenisation, d'abord ? Et pourquoi, à votre avis, Tezos a-t-il été choisi plutôt qu'un autre ? Parce qu'avant, ils travaillaient avec Ethereum, je crois. Hein.
D'accord. Oui, alors ils avaient tokenisé ou titrisé des... Parce que finalement, c'est ça, on représente un titre sur un actif. Ils avaient titrisé, je crois, un chalet à Aspen. C'est dans le Colorado, c'est bien pour le ski. Alors, ils avaient titrisé un chalet à Aspen sur la blockchain d'Ethereum. Et maintenant, ils refont ça avec des biens en... immobilier en Thaïlande et sur la blockchain Tezos. Et il faudrait les avoir sur le podcast et leur demander exactement pourquoi ils le font. Mais,
vous n'êtes pas du tout tenu au courant de ce genre de projet parce que c'est énormément d'argent et ils ne vous mettent pas dans la boucle ?
Pas nécessairement. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'aider les gens techniquement sur le projet. Donc, évidemment, j'en ai entendu parler. Mais Tezos, c'est quand même assez grand comme écosystème. Il y a, je vais dire, il y a au moins 5 ou 6 compagnies différentes qui travaillent sur la blockchain Tezos, sur l'infrastructure même. Et donc, c'est tout un écosystème. Et moi, j'essaie d'aider les gens comme je peux, mais je ne suis pas forcément dans la boucle sur toutes ces choses-là. Mais bon, ce que je sais, c'est que ce qui a intéressé Elevated Returns autour de Tezos, c'était justement cet aspect de sécurité des contrats, cet aspect de pouvoir évoluer sans faire de fork, donc les aspects dont on a parlé plus tôt.
Et si quelqu'un est intéressé par le projet Tezos et qui compte investir dedans, est-ce que acheter des tokens Tezos, c'est utile ou pas ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des jetons sur Tezos ? Première raison, on peut sécuriser la chaîne et il y a une récompense pour sécuriser la chaîne. Donc, ça peut être une activité, c'est ce qu'on appelle les activités de boulange. Donc, et pour une activité de boulange, il faut posséder des jetons. Donc, il y a pas mal de gens, par exemple, qui ont participé à la levée de fonds qui avait été faite par une fondation en Suisse. Et donc, ils ont utilisé les jetons qu'ils avaient pour pouvoir créer ces activités de boulange, pour pouvoir créer ces activités de sécurisation de la chaîne. Donc, c'est une première chose qu'on peut faire. Mais évidemment, c'est un bien intermédiaire, c'est pas un bien terminal. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est l'utilisation qui a été faite de Bitcoin qui est gardée de la valeur. Donc il y a beaucoup de biens qui gardent leur valeur de manière beaucoup plus stable que des crypto-monnaies, hein, bien évidemment. Mais dans certains cas, par exemple, sous des régimes oppressifs, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Il y a eu des cas, notamment au Venezuela, de personnes qui qui faisaient de l'épargne en utilisant des crypto-monnaies. Donc ça, c'est une deuxième utilisation. Une troisième utilisation possible, c'est de faire des paiements. Ces crypto-monnaies marchent très bien justement pour les paiements internationaux. Et une quatrième utilisation, c'est si on veut utiliser des contrats intelligents, sur Tezos, eh bien, il y a des frais qui sont payés en jetons, donc dans cette monnaie-là. Donc voilà, je dirais, les 4 cas d'utilisation de la monnaie.
Et vous avez effleuré, là, à l'instant, la fondation Tezos, avec qui vous avez été en conflit. La fondation Tezos, c'est la structure indépendante qui détient ou détenait les 230 millions de dollars levés dans l'ICO de 2017. Où en est-on à présent ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire ?
Oh, je pense que le mot conflit est beaucoup trop symétrique pour décrire ce qui s'est passé. Il y a eu un directeur de la fondation qui était relativement dingue et qui a eu... Ce n'était pas un conflit entre moi et la fondation, c'était un conflit entre lui et le reste du monde, hein, malheureusement. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui s'est accroché à une situation absolument intenable. Et fort heureusement, il n'est plus du tout dans cette fondation ou dans le projet depuis février de l'année dernière.
Donc tout va bien là.
La fondation va tranquillement. Enfin, comme une fondation suisse. Hein.
Donc très tranquillement.
Voilà, tranquillement.
Et nous réalisons ce podcast lors du Paris Blockchain Week Summit. Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose en France en ce moment autour de la crypto, de la blockchain ?
Ah bah oui, de toute évidence, il y a clairement un intérêt des pouvoirs publics à vouloir fournir un terreau fertile à cette technologie.
Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a cité Tezos dernièrement comme un des projets français les plus prometteurs, donc j'imagine que ça vous fait plaisir.
Ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait très plaisir, merci monsieur Le Maire. Et donc... Voilà, donc ça, de toute évidence, il y a ça. Puis je pense aussi qu'il y a énormément de talents en France. Donc je parlais justement de la vérification. Il y a des talents d'ingénierie très forts en France et je pense que ça, qui ont un bon, il y a un bon fit culturel, je pense, entre les applications de blockchain qui demandent beaucoup de rigueur dans leur construction et la culture d'ingénierie française.
Et là, vous vivez la plupart du temps quand même aux États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait vous faire reconsidérer un retour en France ?
Alors, non, moi je vis plus aux États-Unis.
Enfin, vous vivez, je pense, dans l'avion plutôt. Mais...
Je vis dans l'avion, c'est la meilleure description de là où je vis. En fait, moi j'ai rencontré ma femme aux États-Unis, donc ma femme est new-yorkaise, et on a un petit peu été un peu partout, on a passé pas mal de temps en France, on a passé pas mal de temps en Californie, en Floride, etc. etc. Puis finalement, elle a une nouvelle compagnie, et donc la plupart de ses employés et son cofondateur sont à New York. Moi, je passe pas mal de temps à Paris parce qu'il y a un écosystème Tezos qui est très important à Paris, évidemment, avec Nomadic Labs en particulier, avec ce que fait Chain Accelerator. Et donc, comme elle a besoin d'être souvent à New York et qu'elle parle pas français et que moi, j'ai besoin d'être souvent à Paris, ben, on s'est mis un peu au milieu et donc on s'est récemment installé à Londres.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle fait ? Parce que vous, vous occupez donc de Tezos et vous faites surtout de l'évangélisation à travers le monde sur le protocole. Et donc, elle a monté une boîte qui utilise Tezos.
Exactement.
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Alors, il faut l'avoir sur votre podcast. Alors,
je serais ravi d'avoir, mais il faut qu'elle parle français.
Ben, ça sera peut-être une... vous savez, ça fait 10 ans que j'essaye. ma femme a pris quand même des cours à l'Alliance française. Et quand elle prend des cours à l'Alliance française, à New York, les cours à l'Alliance française, c'est beaucoup d'époux et d'épouses de français qui disent « Mon époux et mon épouse insistent que j'apprenne le français. » Donc elle parle un petit peu, mais peut-être pas suffisamment pour un podcast. Alors, sa boîte, pardon. en fait, il y a des... Sa boîte est autour d'un... Sa boîte, elle s'appelle Kos, parce que Ronald Kos est un prix Nobel d'économie qui a beaucoup écrit sur les frais de transaction et faire baisser les frais de transaction. Et donc, une des thèses que je partage aussi, mais qu'elle formule, c'est que l'intérêt des blockchains, c'est de faire tomber les frais de transaction. Donc, frais de transaction, par exemple, sur la titrisation, frais de transaction sur l'échange de monnaie, frais de transaction sur certains contrats financiers. Et donc l'idée, c'est de faire tomber ces frais de transaction et elle regarde différents marchés avec ça. Et donc, le premier produit que fait sa compagnie, c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc, le jeu de cartes à collectionner le plus connu, c'est Magic the Gathering, évidemment. Et donc, elle a dans son équipe pas mal de gens qui sont tous dans le Hall of Fame de Magic the Gathering. Et donc, son idée, c'est de dire, quand les jeux de cartes à collectionner sont devenus digitaux, ils ont perdu en fait une activité de marché secondaire qui était très importante. Il y avait beaucoup beaucoup d'échanges et finalement ces plateformes digitales ont essayé d'empêcher ces échanges ou les ont rendus ont augmenté la friction. Et l'idée c'est de prendre l'idée inverse et de dire au contraire on va donner aux gens le contrôle de leur carte. C'est-à-dire sur une blockchain décentralisée, les gens peuvent vraiment posséder eux-mêmes leurs cartes et avoir une possession qui a du sens au lieu que ce soit juste tout contrôlé par une compagnie et donc pouvoir se les échanger, pouvoir se les passer de l'un à l'autre. Et donc c'est construit autour de ça, sachant que c'est avant tout leur premier objectif, c'est de faire un très bon jeu de cartes à collectionner et la blockchain c'est juste en plus. Mais c'est pas une compagnie de blockchain qui fait un jeu de cartes à collectionner, c'est une compagnie de jeu de cartes à collectionner qui fait de la blockchain en ce moment.
Et j'imagine que les cartes sont tokenisées sur Tezos.
Exactement.
Merci beaucoup Arthur d'être passé dans 21 millions.
Merci.
Merci beaucoup à Arthur Bretman pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur Apple et Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt !